Bonjour.
Les choses à faire, c'est donc ces quatre nouvelles. Un homme qui entreprend de ranger sa bibliothèque, un jeune qui délaisse ses dessins pour rejoindre ses amis à la fête des Vendanges, hein, j'imagine, une famille de retour d'une randonnée en montagne, une jeune étudiante qui veut profiter de son été. Ce sont les personnages de ces quatre nouvelles. Des personnages qui, selon moi, ont un point commun, une volonté d'avoir le contrôle. Est-ce que ça vous va comme résumé ?
Oui, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait ça.
Le premier personnage, la première nouvelle, il est en train de débuter une histoire d'amour, mais pour recevoir sa prétendante chez lui, il faut que tout soit parfait, hein, que rien ne dépasse, à commencer par sa bibliothèque. Alors il se met à tout sortir afin d'avoir des rangées uniformes de livres, d'avoir le bon nombre de livres par rayon de bibliothèque, le bon classement alphabétique et thématique. Et puis finalement, c'est une soif d'ordre et de contrôle qui va prendre le dessus et le dépasser.
Oui, effectivement, puisqu'il est tellement préoccupé par l'idée de mettre de l'ordre dans sa bibliothèque que finalement il refuse de voir cette fille qu'il fréquente depuis un certain temps, parce qu'il ne veut pas la voir avant que tout soit parfaitement mis en ordre, et donc ça va détruire son histoire d'amour.
C'est du vécu. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour vos histoires ou des gens autour de vous ?
Alors c'est du vécu, oui et non. Je suis effectivement quelqu'un de très maniaque et j'aime beaucoup mettre de l'ordre dans ma bibliothèque. Mais je vous rassure, je n'ai pas eu d'interférence avec... mes relations humaines ont raison de ma bibliothèque.
Alors dans la deuxième nouvelle, hein, Colin, c'est un ado qui aimerait s'intégrer dans un groupe, mais qui ne sait pas exactement comment s'y prendre. Hein. Comment trouver le bon dosage entre sa personnalité et les compromis à faire pour avoir l'air cool ? Comment vous avez approché ce personnage, vous, dans votre intériorité ?
Disons que c'est un personnage qui a beaucoup de ressemblance avec l'adolescent que j'étais. Et comme j'ai commencé à écrire lorsque j'étais adolescent, j'avais réuni un certain nombre de matériaux que j'ai ensuite pu réexploiter pour en faire un adolescent qui, j'espère, est psychologiquement crédible.
Et puis dans la troisième nouvelle, là, c'est tout autre chose. C'est une mère de famille qui veut organiser toute la vie et le quotidien de son mari et de ses deux ados. Et finalement, tout le monde se rebelle, chacun à sa manière, contre cette volonté de tout contrôler. Il y a quand même des similitudes. Hein. Il y a le contrôle, il y a le fait de trouver sa personnalité et qui on est dans vos histoires.
Oui, tout à fait. Alors dans cette troisième nouvelle dont vous parlez, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en scène des personnages qui ont tous des préoccupations, mais des préoccupations différentes les uns des autres, et en les mettant ensemble dans une voiture et en se penchant tour à tour dans leurs pensées, ça permettrait de montrer comment chacun était au fond dans sa bulle et la difficulté de communiquer liée au fait qu'ils ont des autres échelles de valeurs et des autres soucis.
Parce que là, cette famille, elle revient d'une randonnée, famille recomposée, hein, avec les deux grands ados, le mari qui n'est pas le père de ses deux enfants. On commence par être dans la tête de la mère qui, justement, se projette et projette toute sa famille simplement dans le repas du soir. On a tous eu, enfin toutes peut-être, cette préoccupation de dire alors pour ce soir j'ai prévu ça parce qu'ils sont tous là, donc je vais prendre le temps de cuisiner, de leur faire plaisir. Sauf que le plaisir vu par la maman, c'est pas forcément le plaisir vu ni par son mari ni par ses enfants. Finalement, tout le monde commence à se poser des questions existentielles, mais chacun dans sa tête.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et l'idée, c'était de creuser le plus loin possible ces petits tracas qui n'ont au fond, qui ne semblent pas avoir une grande importance, mais qui en fait en ont une et qui préoccupent les personnages et qui préoccupent sans doute beaucoup de gens dans la vie réelle.
Est-ce que tout vouloir contrôler comme ça peut justement, comme vous semblez l'évoquer, poser parfois des soucis ?
Oui, alors je pense, effectivement, j'ai caricaturé mes personnages au point qu'ils ont des soucis. Mmh. Mais disons que je pense qu'on a tous un certain degré des désirs de contrôle et de faire de l'ordre dans un certain nombre de choses. Mes personnages sont des caricatures à ce niveau-là.
Et puis la dernière nouvelle, aussi assez caricaturale, le personnage. Ici, c'est le journal d'une étudiante que vous nous proposez. Une étudiante qui a l'air assez brillante, hein, qui bosse pas mal. Elle a passé toute l'année à travailler avec acharnement. Et puis elle aimerait maximiser l'été, maximiser les vacances, profiter hein, de ce temps qui lui est offert. Mais elle a besoin de se mettre des contraintes pour justement avoir le contrôle et avoir l'impression de profiter un maximum.
Oui, c'est ça. Cette dernière nouvelle, elle a une allure un peu paradoxale, puisque l'étudiante a énormément de temps libre. Donc elle se dit du temps libre, donc les vacances, je profite. Mais au fond, elle est tellement obnubilée par la question de savoir comment profiter à fond, comment ne pas passer à côté de ses vacances, que ça devient obsessionnel et que ça devient en fait plus du tout des vacances, mais quelque chose de très préoccupant.
L'inspiration de chacune de ces courtes histoires, alors vous l'avez dit, vous aimez bien le contrôle, vous êtes un peu maniaque, vous vous êtes projeté vous-même dans ces différentes situations en vous mettant dans la peau d'une étudiante, d'une mère de famille, etc.
Oui, c'est ça. Ma source première, je dirais, c'est des observations de ce qu'il y a autour de moi, mais aussi beaucoup de ce qu'il y a dans mes propres pensées. Je n'ai pas voulu faire des biographies, ce n'est pas une autobiographie, mais disons le matériau, je l'ai analysé sur moi-même pour ensuite en faire quelque chose de différent, pour le plaquer sur des histoires fictives et pour pousser à l'excès des choses que je retrouve chez moi-même et aussi chez d'autres gens qui m'entourent.
Justement, votre entourage, ils vous ont reconnu dans certaines de ces nouvelles?
Oui, ils m'ont reconnu dans toutes les nouvelles.
Antoine Vu, alors après des études de lettres, vous avez suivi les cours de la HEP pour devenir enseignant. Là, vous êtes de retour sur les bancs de l'Université de Neuchâtel. Vous travaillez sur une thèse en philosophie. Écrire les choses à faire, écrire de la fiction, c'est quoi? C'est un bol d'air?
C'est un bol d'air. En même temps, c'est vrai que j'écris, même si c'est ma première publication, ça fait très longtemps que j'écris pour moi dans des carnets, bien avant d'avoir commencé mon doctorat. Donc c'est pas nouveau de ce point de vue-là pour moi.
C'est nouvelle, finalement. C'est de la philo, mais sans jongler avec les concepts, de la philo de la vie quotidienne.
On pourrait dire ça. Disons que les liens entre ce que je fais en philosophie et les histoires que j'écris, c'est que c'est une forme d'écriture qui est très proche, puisque en philosophie, on pratique une écriture très, très sobre, aussi rigoureuse que possible, aussi précise que possible. Et c'est cette écriture-là que j'ai essayé d'appliquer à mes nouvelles. Mais effectivement, comme vous le dites, on est dans quelque chose de beaucoup moins abstrait, beaucoup plus concret, basé sur des situations fictives, mais concrètes tout de même. Et ça, c'est ce qu'on ne peut pas faire en philosophie, où on travaille sur des concepts, sur de l'abstrait, sur des arguments.
Et pourquoi avoir choisi la forme de la nouvelle plutôt qu'une autre forme?
Peut-être simplement parce que les histoires que j'ai mises en place sont des histoires très simples, minimales, où l'intérêt est plutôt de l'ordre de la description psychologique. S'il y a un intérêt, il est de cet ordre-là. Et étant donné que ces histoires sont minimales, il n'y avait simplement pas la matière pour en faire un roman complet, mais ça devait tenir sur une dizaine de pages.
Et comment alors vous approchez l'écriture? Vous avez un planning très, très serré, ou est-ce que c'est...
Vous contrôlez.
Quand vous le sentez, est-ce que vous contrôlez ou est-ce que vous laissez aller, en gros?
Alors ça s'est fait sur le très long terme, le processus a pris des années, et au fond c'est trois étapes. La première étape, c'est simplement j'écris librement dans des carnets sans avoir d'intention particulière. Mm-hmm. La deuxième étape, c'est lorsque j'ai suffisamment de textes qui se ressemblent avec des thématiques communes, je décide d'en faire une nouvelle. Et là, je réunis mes matériaux pour écrire une histoire. Et puis la troisième étape, c'est du peaufinage. Et ça, c'est la partie la plus longue, la plus laborieuse. Et qui demande le plus de rigueur aussi, où je retravaille les formules, donc je lis, relis et re-relis jusqu'à avoir un produit qui me satisfait.
Alors écrire, c'est une chose, aller chercher un éditeur, ça c'est un pas supplémentaire. Comment ça s'est passé pour vous, cette démarche des nouvelles écrites dans un carnet, des nouvelles peaufinées, et puis des nouvelles aujourd'hui éditées, publiées?
Oui, alors effectivement, j'avais jamais rien édité, donc je ne savais pas comment ça fonctionnait vraiment. Donc j'ai envoyé à une dizaine d'éditeurs en Suisse et en France, et l'âge d'homme ont répondu positivement à ma demande.
Ça doit être une belle surprise, non?
Ah oui, j'étais
trop... On est peut-être un peu fébrile quand on ouvre la lettre.
Effectivement, bon. Effectivement, oui. J'ai envoyé une dizaine d'éditeurs, j'ai d'abord eu les 9 réponses négatives. J'avais déjà préparé la liste des 10 prochains, des suivants. Et tout à coup, la bonne surprise, l'âge de
superbe.
Accepté.
Et alors, vous vous imaginez plutôt auteur, plutôt prof, plutôt chercheur pour la suite de votre vie?
Disons que pour moi, l'idéal, ce serait de toujours réussir à écrire. Alors, comme chacun sait, on ne peut pas vivre de sa plume, malheureusement, où c'est extrêmement difficile. Mais l'idéal, pour moi, serait de réussir à avoir un métier qui soit compatible avec, avec une écriture, pour moi, dans mon temps libre.
Vous n'avez pas envie de choisir, vous avez besoin de ces différentes casquettes, finalement. Elles s'alimentent mutuellement ?
Peut-être qu'elle s'alimente, oui. L'écriture, de toute façon, peut s'alimenter de tout et n'importe quoi, puisque tout ce qu'on vit ou tous les travaux que l'on fait peuvent inspirer ensuite des histoires ou des réflexions.
Alors là, justement, ces premières nouvelles que vous publiez, elles vont avoir, j'imagine, du succès. Elles vont vous donner envie de réécrire. Est-ce qu'il y a justement d'autres idées qui vous sont déjà en tête ou qui dorment dans votre petit carnet ?
Oui, j'ai déjà des idées pour la suite. Le prochain projet sera probablement, non pas des nouvelles, non pas des récits, mais des projets d'essais. Donc quelque chose de, cette fois-ci, plus abstrait, peut-être plus proche de ce que je fais en philosophie. Mais ça reste pour l'instant à l'état de projet, rien de très concret pour le moment.
Et du coup, on le classe où cet essai dans la bibliothèque, à côté des nouvelles, ou on met avec dans un autre registre, dans une autre pile?
Alors ça va être très compliqué, ça demandera des classifications ad hoc.
Antoine Vu, Les choses à faire, c'est paru aux éditions L'Âge d'Homme. 4 nouvelles que vous allez tous apprécier, déguster, j'en suis sûre. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin, quelques instants dans Format 3.
Merci à vous pour l'invitation.